Tricotine.
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 Tricotine. Pour entendre le monde une maille après l'autre.
Le dernier dimanche du mois, de 17h à 18h.
Il est 17h, trop tard pour le goûter, mais trop tôt pour l'apéro. Doit-on se dire bonjour ou bonsoir? Vous écoutez Tricotine sur le 101.fm à Brest. On vous propose le dernier dimanche de chaque mois un horizon sonore sur un thème choisi collectivement. Bon d'ailleurs, techniquement, nous sommes le deuxième dimanche de mars. Après quelques difficultés, on a décalé la diffusion de cette émission. Alors, on a un peu décidé de refaire le calendrier 2026, une sorte de calendrier fait main. Et ça tombe très bien parce que le fait main, c'est le thème de notre émission.
On pourrait pas dire recyclage plutôt?
Ou art. Artisanal.
Ouais, mais non, c'est pas trop la même chose.
Après, moi j'aime bien fabricoter.
Ah ouais, ouais, c'est mignon. Hein.
Hey, attendez, attendez, j'ai mieux. Le do it yourself, vous connaissez?
DIY.
Yeah, I love it.
Sinon, on peut dire réaliser aussi.
Moi j'aime bien création.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est très chouette. En tout cas, le fait main, on bricole, on bidouille. Ça vous inspire quoi?
Bah, le fait main, quand on y pense, ça existe depuis les premiers hommes. Hein. Les bijoux, les vêtements, la poterie, tout était fait à la main. Et ça l'a été pendant des siècles. Puis arrive l'industrialisation, au 19e siècle. Petit à petit, on s'en éloigne. Et aujourd'hui, le fait main est presque devenu une catégorie. On le fait par coutume, pour la qualité du savoir-faire, pour l'authenticité, pour l'unicité, pour des raisons écologiques et pour le plaisir. Au 19e siècle, déjà, le mouvement Art and Craft Movement en Angleterre défendait le travail manuel face aux machines. Comme si déjà on pressentait qu'on perdait quelque chose. Personnellement, je crois que la première fois que j'ai fait du fait main, c'était chez ma tata en Suisse. Une petite assiette en argile. Je me souviens de cette sensation très simple. J'ai fait un objet de mes propres mains. Depuis, j'ai essayé plein de choses. L'argile auto-durcissante, bijoux en pâte fimo, couture, peinture, époxy, bougie, tapisserie d'ameublement. Il y avait de la satisfaction, mais aussi cette idée que je me rapprochais d'un mode de vie indépendant, plus écologique. Mon petit côté bobo, peut-être. Puis j'ai fait des études en tapisserie d'ameublement. Et là, on ne triche plus. Hein. Pour mon projet de fin d'année, j'ai construit un salon de jardin pour ma mère avec le plus de récup possible. Donc avec des caisses en bois, de fruits et légumes pour les assises, des vieux coussins découpés pendant des heures pour le rembourrage. Mais le 100% récup, c'est presque impossible. La peinture, on ne la réutilise pas, il faut l'acheter. Le tissu d'extérieur doit être aussi spécifique, résistant aux intempéries. Le fil aussi. Et une fois terminé... Bah, j'étais fière, mais j'étais lucide. Je compare les prix avec un salon de jardin déjà en magasin. Et niveau tarif, c'était kiff-kiff bourriqué. Alors je me suis posé la question. Est-ce que le fait de faire soi-même est vraiment plus écologique quand on doit acheter les matériaux, quand on n'a pas les outils? Est-ce que c'est plus rentable quand on passe des dizaines d'heures dessus? Est-ce que c'est toujours plus responsable? Ou est-ce que parfois c'est surtout une idée qu'on aime? Peut-être que le fait main n'est pas toujours plus écologique. Peut-être qu'il n'est pas toujours moins cher. Peut-être qu'il n'est pas toujours durable. Et peut-être que sa vraie valeur n'est pas là. Peut-être que le fait main n'est pas seulement de produire, c'est de comprendre que ça coûte de produire. En temps, en énergie, en matière, et rien que ça, ça change notre regard.
Ouais, tu parlais des bobos Morgan, et moi ça m'inspire une autre chronique. La mode du DIY, du do it yourself. J'y vois un espèce de fantasme du passé et des sociétés traditionnelles populaires. Donc pour venir un peu sur le mot bobo, c'est vrai que ça n'a pas une vraie construction scientifique, mais on peut quand même le mettre en lien avec le phénomène de la gentrification que la sociologue marxiste Ruth Glass décrit en 1964. Donc elle parle de jeunes ménages qui achètent des vieilles maisons décrépies à proximité de Londres. Et donc pour cette sociologue, ces nouveaux habitants, c'est en fait une nouvelle bourgeoisie urbaine qui ne fait pas partie de l'élite et qui ne fait pas non plus partie des classes populaires. Les gentrifieurs vont essayer en fait de s'approprier leur chez-soi pour le rendre conforme à un idéal de vie. Le lien avec le fait main, eh ben, on y vient. Les logements sont originaux, personnalisés et font référence à l'architecture industrielle et au style bourgeois ancien. Donc faire ses meubles en palette, upcycler, c'est-à-dire recycler et donner un autre usage à des objets ou des meubles anciens, ça pourrait en fait aller dans ce sens. Et il est question aussi dans la rénovation des logements de s'approprier les connaissances en construction afin de réaliser un logement à son image et à son goût. Donc finalement, un logement différent et alternatif. Donc le fait main, ça montre aussi le refus de la société de consommation et par la même occasion de pouvoir au départ, se distinguer d'un modèle dominant. Après, évidemment, le phénomène de la gentrification est assez complexe. On pourrait parler aussi du rôle des politiques publiques qui amplifient ce phénomène ou aussi des promoteurs immobiliers. Donc pour conclure, je vais finir en disant que les conséquences de la gentrification, c'est les centres-villes qui s'embourgeoisent et les ménages aux revenus plus modestes qui sont contraints à partir en périphérie. Et en fait, tout ça, ça crée de la ségrégation sociale.
Du coup, attends, donc pour être sûr d'avoir bien compris, la gentrification, c'est quand t'as, en gros, un quartier pauvre, t'as des gens avec un peu plus de thunes qui s'installent, qui, du coup, améliorent un peu le quartier pour que ce soit à leur goût. Et donc, le quartier s'améliore, et donc les personnes qui étaient là au départ doivent partir parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et en fait, les logements ont une nouvelle valeur parce qu'ils ont été rénovés. Donc, ils ont un coût immobilier qui est plus élevé, qui fait que les plus pauvres, en fait, ne sont plus capables de payer ça et sont obligés de s'éloigner du centre-ville et d'aller en périphérie des villes.
Et en fait, moi, j'aurais tendance à faire un parallèle aussi avec finalement y a plusieurs personnes qui le dénoncent, ce deux poids, deux mesures, un petit peu comme quand parler plusieurs langues, et ben, quand on parle le français, l'anglais, l'espagnol et le coréen, c'est super stylé. Et que par contre, quand on parle le français, l'arabe,
le kabyle et le
turc, c'est beaucoup moins stylé. Et du coup, pour le fait main, c'est peut-être un peu pareil. C'est que quand c'est fait main par quelqu'un qui est d'une classe un peu supérieure, qui fait ça joli selon les codes de la société, c'est super stylé. Et que par contre, quand c'est fait avec vraiment des trucs récup, avec effectivement des meubles qu'on a retrouvés dans la rue où il faut faire attention avec les mythes, etc., ben, tout de suite, ça devient beaucoup moins stylé. Et finalement, le fait main, il y a vraiment deux poids, deux mesures dans cette idée d'embourgeoisement. Pour vous laisser réfléchir un peu sur le sujet, on revient juste après PNPNP et leur session d'impro live machine dans la cabane. et vous écoutez toujours Radio U. C'était PNPNP, une session d'impro à retrouver sur leur chaîne YouTube en entier. On continue de parler du fait main et si cela vous inspire, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos témoignages ou vos avis sur tricotine@proton.me.
On parle fait main, tout ça, parce que voilà, on va recadrer un petit peu le sujet. Le fait main, avec Raph, ça nous fait penser au cinéma, parce que le cinéma, comme j'imagine toute forme d'art, c'est de la débrouille. C'est beaucoup, beaucoup de débrouille, et ce, dès le départ, voilà, avec notamment les effets spéciaux. Et ça tombe bien, parce que de tout temps, les hommes ont fait des effets spéciaux. Non, je dis n'importe quoi, mais on avait envie de vous parler un petit peu d'effets spéciaux et, dans le fond, de vous expliquer pourquoi Le Seigneur des Anneaux, c'est trop bien, et Le Hobbit, c'est pas top. Mais avant ça, il faut qu'on revienne un petit peu sur qu'est-ce que c'est les effets spéciaux et d'où ça vient.
Oui, pour revenir un peu à la base, pour la petite histoire des effets spéciaux, donc les débuts des illusions visuelles dans le cinéma remontent pratiquement au début de cet art. On peut dater à peu près le début du cinéma en 1891, et c'est déjà en 1895 que pour la première fois un effet spécial avec arrêt de caméra et substitution d'une actrice par un mannequin a lieu dans le film L'exécution de Marie, reine des Écossais, de William Hayes et Alfred Clark, si vous voulez vous la péter en soirée. Très rapidement donc, tout un tas de gens s'emparent du truc. Et vas-y que je t'envoie de la marche arrière pour faire croire qu'un mur qui a été démoli se redresse, que je te fasse des fondus, des surimpressions de pellicules, etc., etc. Le grand représentant de ce genre de technique est Georges Méliès, dont je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, Le Voyage dans la Lune ou Le Royaume des Fées, qui regorge de très bonnes idées. Les années passent, plein de gens très inventifs perfectionnent les techniques, comme l'animation en volume image par image, qu'on appellera stop motion, ou l'utilisation de maquettes pour faire des décors, ou encore la rotoscopie, c'est-à-dire le fait de filmer des vrais acteurs puis de dessiner par-dessus. Puis, les expressionnistes allemands voient le truc et deviennent zinzin, et nous sortent des films comme le Nosferatu de Murnau ou encore le cabinet du docteur Caligari de Robert Wayne. À partir des années 30, c'est la folie. On assiste dans King Kong en 1933 au premier animatronique, c'est-à-dire une marionnette robotisée. C'est aussi le début des décors peints, intercalés entre la caméra et le décor principal, de la technique du cache contre cache pour faire disparaître ou apparaître des acteurs ou des actrices, de l'incrustation, etc. Je citerai un nom qui me tient à cœur, Karel Zeman, un réalisateur tchèque qui a réalisé des films entre les années 50 et 80 en utilisant énormément de techniques différentes d'effets visuels. Je pense notamment à un film très poétique qui s'appelle Le Baron de Krak, sorti en 1956, dans lequel on suit le voyage fantastique d'un cosmonaute sur la Lune évoluant dans des décors de gravures d'Alphonse de Neuville ou Gustave Doré. Les effets mécaniques sont également très utilisés, dès les années 20, avec l'utilisation de câbles pour simuler des déplacements dans les airs, ou encore des machineries très ingénieuses pour faire tourner les décors et créer l'illusion de vaisseaux qui tanguent, ou de personnages marchant sur les murs et au plafond. Je pourrais également parler de la place du maquillage dans les effets spéciaux, qui a été très importante et qui aujourd'hui reste une des techniques encore utilisées dans le cinéma fantastique, malgré la très grande place que prend le numérique dans les effets spéciaux. Mais voilà! On pourrait citer énormément de noms de films, de réalisateurs et de techniques. Ça risquerait d'être long et lourd, mais ça illustre aussi la diversité des techniques employées pour créer les effets visuels. Les mecs et les meufs étaient hyper inventifs quand même. Diversité qui, à partir du début du numérique dans les années 80, s'est étiolée petit à petit pour qu'aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose.
Ça, c'est un truc qu'on a ressenti. Alors, tu parles des années 80. Pour moi, le tournant, il se situe vraiment au moment de la sortie de Jurassic Park. En 1993, souvenez-vous,
s'il vous plaît,
où s'est posée la question de comment qu'on fait les dinosaures. Et jusque-là, les dinosaures, on les aurait fait en animatronique ou en stop-motion. Et d'ailleurs, ça a été essayé. Voilà, il y a un artiste qui s'appelle Phil Tippett, qui était vraiment spécialisé dans le stop-motion, qui a fait des essais pour Jurassic Park, sauf que voilà, il s'est fait rattraper par le numérique. On était capable de faire, pour certains plans, et avec voilà, une grosse part de budget, des dinosaures qui sont réalistes. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'animatronique, hein, le T-Rex, c'est un robot, mais voilà, ça a été pour moi un tournant.
Et d'ailleurs, oui, les années 80 aussi, ce qui est un peu marrant, avec le début, avec l'apparition du numérique dans les films, ça a été aussi le moment où les réalisateurs et réalisatrices mélangeaient les genres. Ils se sont mis à commencer à mettre du...
ils ont commencé à mettre du numérique, mais en gardant aussi des effets spéciaux techniques. Et il y a tout un tas de films des années 80 assez rigolos où ce qui a vraiment mal vieilli, finalement, c'est le numérique, c'est pas les décors et marionnettes.
Et en même temps, ce qui va faire qu'un effet visuel a vieilli ou pas, pour moi, la différence va se jouer sur l'intention de départ. Souvent, dans le cinéma mainstream, ce qui va être important, ça va être l'idée de réalisme. Et donc, on va utiliser la dernière technique possible pour faire du réalisme, en l'occurrence du numérique. Sauf que la course au réalisme, bah, ça se dépasse assez vite et donc ça vieillit mal. Mais si on reprend les films dont tu parlais avant, d'expressionnistes allemands, par exemple, ils ne sont pas réalistes du tout. Et non. Les effets visuels, voilà, quelque part, on n'y croit pas, entre guillemets, mais ça marche quand même, parce que le but, c'est pas d'être réaliste. Et c'est pour moi ce qui fait la différence fondamentale entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Transition incroyable.
Mais tu commences à parler avec ça.
Ah oui, mais je peux pas te je peux pas te couper là-dessus. Ce qui nous amène à notre point, pourquoi que Le Seigneur des Anneaux, c'est trop bien, alors que Le Hobbit, c'est tout moche. Mm-hmm. Parce que Le Seigneur des Anneaux, alors il y a du numérique et il y a également des effets plus techniques. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait deux disciplines différentes. Si les effets spéciaux étaient du patinage, on aurait d'un côté les effets qui servent le réalisme, qui serait le patinage de vitesse, où on essaye de toujours repousser les limites, et de l'autre, les effets qui servent à un autre but. Voilà, ce serait le patinage artistique. Alors bien sûr, la frontière est poreuse, et bien sûr aussi, les deux représentent de potentielles performances incroyables, mais fondamentalement incomparables. Pourtant, une même technique peut aussi passer d'une catégorie à l'autre au fil du temps. Mais là où un record de vitesse, donc de réalisme, sera vite rendu obsolète dès le prochain record, tout le monde se moque maintenant des dinosaures de Jurassic Park qui ont mine de rien vieilli, une chorégraphie de patinage artistique peut parfois s'avérer indémodable, ou du moins conserver un attrait et un charme, même après que d'autres l'aient remplacé. Pour nous faire croire à son monde, la trilogie du Seigneur des Anneaux a usé des techniques les plus avancées de son temps. Techniques numériques, bien sûr, qui osera dire ici que le Balrog a vieilli, mais aussi effets pratiques. Les maquillages, costumes, etc. ont bénéficié de tout ce qui s'était fait avant, et on retrouve dans ces films une grande, grande partie des effets inventés tout au long du siècle. Chacun ordonné à sa place la plus judicieuse pour concourir à une fresque hétéroclite dans les faits, mais parfaitement homogène en apparence. Dire qu'il n'y a pas de numérique dans Le Seigneur des Anneaux, et que c'est pour ça que c'est mieux que Le Hobbit, ce serait une bêtise. Il y a du numérique dans Le Seigneur des Anneaux, et même pas mal quand on fait attention. Mais il fut utilisé en dernier recours, avec parcimonie, et ce faisant participe discrètement du tout. C'est parce qu'une grande partie des décors sont faits en dur que l'on peut accepter les incrustations sans en chercher les petits défauts. C'est parce que l'acteur qui joue Gimli, John Rhys-Davies, frappe réellement les cascadeurs qu'on peut accepter les pirouettes de Legolas. C'est parce que tous les orques, Uruk-hai, gobelins en gros plan sont des personnes maquillées et prothésées que l'on peut croire aux balrogs et aux créatures ailées. C'est comme un tour de magie. Ça marche mieux quand la magicienne nous laisse toucher ses accessoires au début. On a touché les orques avec les yeux, on croit au Balrog. Et en un sens, le Hobbit a aussi de bonnes idées à ce niveau-là. Les acteurs qui jouent les nains ont des bottes lestées, ce qui ralentit et alourdit organiquement leurs mouvements. Smaug a bénéficié d'un soin tout particulier qui fait qu'il fonctionne toujours très bien. La comté a été rebâtie en dur. Mais pour moi, ça s'arrête là. Arrivé à la sortie du film, les effets numériques ne coûtaient plus aussi cher que 15 ans avant. Alors tant pis si on a déjà les infrastructures, les artisans, les artistes pour faire des maquillages, des décors et des cascades qui ne vieilliront pas, qui participeront d'une réimmersion dans un univers auquel on croyait déjà. Tant pis, on ira globalement au plus facile, au moins cher, et surtout au plus rapide. Le but, c'est juste que ça ressemble au Seigneur des Anneaux, juste assez pour que les gens reviennent. Attention, je dis pas qu'on passe forcément un mauvais moment devant. La trilogie du Hobbit est divertissante, mais pour moi, elle n'est que ça.
Non, quand tu parlais des maquillages des orques, oui. Du fait qu'ils étaient réalistes, ça me fait penser au Hellboy de Guillermo del Toro. J'avais lu il y a quelques temps que, au début du projet, Guillermo del Toro voulait faire Hellboy en numérique. Et sous les conseils de James Cameron, qui lui a dit, en fait, c'est une bonne idée, mais si tu fais Hellboy en numérique, personne ne croira à l'histoire d'amour. Qu'il y a entre lui et du coup l'autre personnage. Et en fait, c'est assez vrai sur ce côté où notre œil sait que si c'est un vrai humain avec du maquillage, il est palpable. Et donc, si les deux humains se touchent et vivent une histoire d'amour, c'est quelque part un peu plus réel que un humain qui va toucher un être numérique. On sait qu'en vrai il touche rien du tout, et je trouve ça assez chouette. Mais bref, le but n'est pas du tout de partir en pamphlet contre les effets numériques. Ils apportent effectivement, comme tu disais, de grandes possibilités. Mais on tenait à mettre l'accent sur la diversité existante des effets techniques possibles en dehors du numérique. Les différentes techniques d'effets visuels changent complètement l'environnement créé. Les textures changent, les ambiances aussi, selon qu'on utilise de la stop motion ou une marionnette robotisée pour animer un être fantastique. Un décor en peinture ne donnera de la même manière pas du tout le même effet qu'un décor en carton. L'imaginaire et ses possibles s'appauvrit en même temps que s'impose une norme visuelle qui a toujours la même patte, la même esthétique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ces dernières années, on assiste aussi à des effets numériques qui essayent de ressembler à du fait main. Par exemple, je pense au dernier Spider-Man en dessin animé, le 2, qui utilise du numérique pour créer de l'aquarelle, de la fausse aquarelle. Et ces derniers temps, donc, on assiste un peu à des nouvelles techniques qui essayent de se rapprocher des pattes et des textures de quelque chose qui aurait été fait à la main. Et c'est assez rigolo, ce truc-là.
Du coup, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on disait un petit peu avant sur les bobos. Avec cette idée de, on cherche à retrouver du fait main un peu en nostalgie de, voilà, à l'époque où on tressait les paniers à la main, où on dessinait le Spider-Man directement sur, voilà, je sais pas.
Non, mais c'est carrément ça, je pense que ça coûte, j'imagine, je sais pas si ça coûte moins cher de créer de l'animation uniquement en numérique maintenant par rapport à du fait main, en tout cas ça prend beaucoup moins de temps. Mais il y a vraiment ce truc de retour en arrière quelque part, de c'était mieux avant quand même. Donc on va essayer de ressembler à ce qui était fait avant.
Comment conclure finalement ? Voilà. Je vous pose la question. Envoyez-nous un mail. Non.
Bisous.
Comment conclure finalement ? On n'est pas là pour vous dire quel film aimer ou ne pas aimer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez parfaitement vivre l'intégralité de votre existence sans la moindre once de bon goût. Non, l'idée, c'est simplement, voilà, peut-être, en toute modestie, maintenant, vous serez peut-être un petit peu plus à même de savoir pourquoi vous avez plus aimé un film plutôt qu'un autre, pourquoi vous êtes plus rentré dans tel univers et pas trop dans tel autre. Et j'en profite pour vous reconseiller de regarder Le Seigneur des Anneaux pour les quelques personnes qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est, à mon sens, le meilleur moment pour le regarder et en apprécier les vieilles techniques. Les effets numériques commencent doucement à vieillir. On te regarde, hein, le troll des cavernes. Ce qui permet paradoxalement d'augmenter l'immersion. En gros, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, si quelque chose semble réel dans le film, c'est que c'était bien là, que ce soit du décor, des personnages, etc., etc. Et j'en profite pour glisser qu'il existe une version épisodique avec des épisodes de 40-45 minutes pour les personnes qui n'auraient pas la déter de regarder 3h30 de film d'un seul coup. Cette version, je l'ai faite avec mes petites mimines à la sueur de mes yeux et de mes oreilles. J'en suis assez fier. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à Tricotine, à l'adresse qu'on vous donne à la fin de l'émission, pour qu'on vous diffuse tout ça. Voilà.
Et en parlant d'art et de texture, j'ai enregistré cette semaine mes amis artistes qui m'ont parlé de leur rapport à leurs mains et à la texture.
La volonté de faire du fait main vient surtout d'une volonté de base de me rendre fier.
Je pense que ça m'a permis de comprendre comment étaient les choses, les matières et comment ça pouvait fonctionner et ce qu'on pouvait faire avec.
C'est toi, avec toi, chez toi, dans un environnement qui est proche de toi, avec ton corps.
Et ça me permet d'explorer ce qu'il y a autour de moi, mon environnement. Les objets, les matières et tout.
Je dirais pas que ça m'aide à me réapproprier moi-même, je dis que ça m'aide à m'éloigner de moi-même, un peu dans une démarche contraire. C'est comme si tout ce qui me faisait... tout ce que je trouve un peu pénible passe dans mes mains et passe dans ce que je suis en train de faire, et ça m'éloigne du problème.
Je vois comme quelque chose qui fait le lien avec ce qui m'entoure, que ce soit les gens ou les objets.
Je vois pas mes mains comme un outil. C'est pas un outil parce que ça subit vachement ce qu'on lui... Ça subit vachement même ce qu'on lui demande pas de faire. Notamment avec la peau qui est quand même le premier réceptacle du... ou le premier contact avec le monde extérieur entre nos émotions et ce qu'on va venir toucher ou ce qui va venir nous toucher. Et du coup, j'ai du mal à le voir comme un outil aussi parce que j'ai du mal à le maîtriser, je pense.
Surtout que moi, on appelle des mini-saucisses, mes doigts, enfin, ça s'appelle comme ça.
Après, j'adore travailler la matière. Enfin, je fais de la linogravure et je fais des prothèses en latex. Et j'aime trop travailler l'argile aussi. Mmh. Enfin, j'ai un rapport au toucher qui est très, très fort. Et ce qui est marrant, c'est que ça a modifié mes mains. Oui. J'avais les mains beaucoup moins, enfin, beaucoup plus lisses avant. Et elles n'étaient pas calleuses, elles étaient moins rugueuses. J'ai des cales, genre elles sont plus rêches, elles sont plus sèches. Mmh. Et je crois que j'aime bien.
Là, ça commence à aller mieux. Mais dernièrement, j'avais les mains hyper sèches et je commençais à avoir des coupures, des gerçures en fait. Ma peau craquait avec les produits que j'utilisais.
Et donc c'est vraiment un outil, comme c'est un outil vivant, c'est vraiment pas le plus pratique des outils. Et en fait, c'est surtout qu'on n'a que ça et on est obligé de faire avec.
Coup de se dire, ok, j'y arrive un peu plus, machin. Je dis, putain, ouais, cool, mes doigts, je deviens de plus en plus agile. Donc, c'est chouette.
Ça me donne l'impression de faire quelque chose de ma vie. Enfin, ça se voit que je travaille avec mes mains. Mes mains ont vraiment une histoire que j'ai pas besoin de parler. Genre, tu peux le voir quand tu les regardes. Et je trouve ça trop stylé.
Je pense que je le vois comme, je sais pas, une prolongation de mes yeux. Ça veut dire que je vois un élément et en fait, du coup, mon cerveau, mes yeux lui disent, t'as besoin de comprendre cet élément, donc touche.
Ma première matière préférée, chronologiquement, c'est le bois. Et j'aimais trop cette sensation parce que ça peut être à la fois rugueux et en même temps doux selon si c'est l'écorce, c'est le cœur du bois et tout.
Ça m'apaise beaucoup les draps propres. Ça m'apaise beaucoup mon doudou.
Des matières plastiques qui sont très lisses, que j'adore toucher aussi.
Moi, si on parle de laine bouillie, je deviens fou.
Quand nettoyer mes meubles et les toucher après, une fois qu'ils sont propres.
Moi, j'ai besoin, quand je touche une matière, que en fait, y a du grain. Toucher le grain de la laine bouillie, le grain du velours côtelé.
La pâte à gâteau. Des matières très douces, en fait.
Du coup, sentir vraiment un grain et la laine bouillie, le grain de la laine bouillie. Mamma.
J'aime trop... tout ce qui va être la patouille, les peintures, vraiment, tu sais, le truc de c'est liquide, ça peut être un peu épais, tu t'en fous partout, c'est frais, c'est... Je sais pas, il y a un truc hyper satisfaisant, même quand ça sèche, après ça fait des croûtes que tu peux retirer, genre comme de la peau qui pèle un peu, ou des trucs comme ça, c'est tellement satisfaisant.
Dans mon spectacle de poésie, j'ai écrit « Le toucher valide l'existence ».
Il n'y a aucun instrument entre ton corps et ce que tu touches. Enfin, c'est toi et la matière.
Tricotine ?
Tricotine ?
Tricotine ?
Tricotine ?
Tricotine. Alors moi, je voulais parler des kits DIY. Je me suis longtemps posé la question à quel point c'est du fait main ou non. Est-ce que les kits, on peut considérer que c'est du fait main? Du coup, je me suis un petit peu renseignée là-dessus. Le marché des kits DIY, c'est énorme. En 2024, il représente 33 milliards de dollars dans le monde. Selon les estimations, il pourrait dépasser les 60 milliards d'ici 2034. Juste en parlant des kits. Donc un kit, c'est quoi? C'est un ensemble pré-emballé qui contient tout le matériel nécessaire pour fabriquer un objet. Par exemple, une bougie. Ça tombe bien, j'ai un kit pour faire des bougies. Du coup, dans ce kit, nous avons... Oh, je déballe tout. Bon, déjà, le petit mode d'emploi. Là, nous avons un gros sachet avec de la cire. Des moules. Alors, je peux vous dire que j'étais déçue quand j'ai vu la taille des moules. On dirait qu'ils sont énormes, et en fait, non.
On dirait des pots à yaourt.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, des pots à yaourt. Mais par contre, la matière est top. Donc là, on a du colorant, je crois. Et là, on a des mèches plus des bâtonnets pour tenir du coup les mèches dans la cire. C'est complet. Les moules sont bien et réutilisables. Le reste, je pense pas.
Et tout est emballé dans du plastique.
Tout est emballé dans du plastique, ça c'est sûr. Là, c'est un kit action. Hein, c'est... du coup, oui, comme j'ai dit, donc il y a la cire qui est déjà pesée, les mèches qui sont prêtes, le moule est fourni, les colorants est inclus. On ouvre, on suit les étapes et on fabrique. Ces kits sont présentés comme une porte d'entrée vers la créativité. Ils démocratisent l'expression artistique. Ils permettent à tout le monde, les enfants, adultes, seniors, de créer. Et ça, sur le principe, c'est trop bien. Mais est-ce aussi fabuleux qu'on peut l'espérer? J'ai moi-même été une grosse consommatrice de kits. J'adorais essayer, découvrir, fabriquer. Et un jour, je me suis posé la question. Attends, ça veut dire que des centaines de personnes ont exactement le même objet chez elles? Des centaines, voire milliers. Hein. Est-ce que c'est encore de la création quand tout est déjà pré-mâché? Je me suis particulièrement posé la question en fabriquant des bijoux en résine d'époxy.
Je ne créais pas vraiment. J'assemblais. Tout était déjà pensé pour que le bijou ressemble exactement à ce que le concepteur avait imaginé. Et puis il y a la question écologique. On associe souvent le fait main à quelque chose de plus responsable. Mais un kit, c'est aussi des sachets plastiques, des petits contenants, du matériel parfois bas de gamme, du transport. Alors, est-ce que c'est vraiment moins polluant qu'un objet fabriqué en série en usine? Alors, les réponses sont pas si simples. Certains kits durables et réutilisables peuvent limiter l'impact, mais à condition d'y mettre le prix. Surtout à condition que ce ne soit pas qu'une envie d'un jour. Parce que si le moule casse, si les outils ne tiennent pas, si le projet finit au fond d'un tiroir, l'impact est bien réel. Pour en avoir testé beaucoup, je peux vous dire que les kits d'entrée de gamme ne durent vraiment pas des années. Alors oui, si l'idée est de découvrir le plaisir de créer de ses mains, c'est une très belle porte d'entrée. Mais si l'on pense acheter un kit pour avoir quelque chose d'unique, écologique, là je crois qu'on fait fausse route. Le fait main, ce n'est peut-être pas seulement utiliser ses mains. C'est choisir ses matériaux, c'est faire des erreurs, c'est apprendre.
Je faisais beaucoup de petits bricolages, de petites choses comme ça avec ma maman quand j'étais petite. Et c'est vrai que je pense à un truc, par exemple, du collage pour fabriquer un petit livre, une illustration, etc. Si on t'a déjà découpé tous les morceaux et que t'as juste à les assembler, sans même parler de est-ce que c'est artistique ou pas, c'est chiant, quoi.
Oui.
Alors que quand tu vas toi-même découper, te faire un petit peu la callosité de tes petites mains d'enfant sur des ciseaux pour découper les formes, etc. et te mettre de la colle plein les doigts, il y a un truc...
Et c'est surtout de savoir, est-ce qu'un objet qui est déjà pré-mâché pour ressembler à n'importe quel objet que tout le monde va acheter, est-ce qu'on peut considérer ça comme du fait main, parce qu'on utilise quand même ses mains, ou pas?
Mais c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, dans la définition du fait main et de tous les synonymes qu'on disait au début de l'émission, on n'est pas forcément toutes d'accord sur ce que ça signifie.
C'est trop vaste,
voilà.
C'est
ça. Moralité, ça dépend.
On devrait changer de chronique du coup.
Alors non, on va garder cette chronique, ce thème et cette émission. Et donc on va continuer de parler du fait main juste après Sarah Lola et sa chanson How Cruel.
It is to be like you.
C'était Sarah Lola, jeune chanteuse de 20 ans, et son titre « How Cruel », sorti il y a quelques jours. Vous écoutez toujours Tricotine sur le 101.fm à Brest.
On parle de Fémin, et moi j'ai pensé à la BAPAV. Vous connaissez la BAPAV, l'équipe ?
Oui. Bah oui, Saint-Martin.
Brest, à pied et à vélo, c'est une association qui promeut les déplacements à vélo sur Brest.
Ah, c'est ça que ça veut dire ?
Et oui !
Incroyable.
Et donc, je suis allée les rencontrer un mardi soir à Saint-Martin, où il y a l'atelier non mixte de réparation de vélo.
Non, vraiment, enlève. Ouais, là, tu peux juste enlever comme ça. Ça, c'est. Et là, bah, tu peux te choper une clé. Okay. Tu vois, c'est les clés, de, les clés plates, c'est les clés ouais. Qu'il y a au-dessus. Ça, c'est les clés.
Ils sont vraiment très lisses, là.
Mais là, c'est pareil, c'est peut-être un peu grippé, donc tu peux remettre du WD-40.
Ok.
Et là, tu vas faire quoi avec ta roue ?
Je vais la dévoiler. Faut que je desserre petit à petit, quart de tour par quart de tour. Et voilà, et tout ça en faisant tout le tour de la roue.
Et tu dois jouer juste sur les rayons ?
Ouais, je crois que c'est ça. Il faut que je check si tu vois s'il y a du jus ou quoi, si c'est mou. Et ensuite, en fonction d'eux, je resserre. Quand tu serres à gauche, ça te la retend vers la gauche, si je ne me suis pas trompée.
Et comment tu resserres tes rayons ?
Bah, j'ai cette petite clé que seuls les professionnels possèdent. C'est Internet qui l'a dit.
D'ailleurs, tu la tiens dans ta main comme une professionnelle.
Comme une professionnelle, tu vois. Et là, c'est toujours pas la bonne taille. Si !
Bravo.
Et là, après, tu tournes. I think.
Après, si tu desserres la machine, ben, elle n'est pas volée du tout, ta...
Eh ben oui.
Voilà.
C'est vrai. Problème résolu.
Il suffit de changer de référentiel.
Tout est relatif.
Exactement.
Alors, du coup, ici, c'est l'atelier d'autoréparation de l'asso BAPAV. Et BAPAV, ça veut dire Brest à pied à vélo. Donc l'asso s'occupe, enfin promeut un peu... le déplacement à vélo à Brest et en général. On ouvre l'atelier, donc il y a beaucoup d'outils et des espaces pour des pieds pour pouvoir mettre son vélo. Et c'est ouvert à toute personne qui a envie de travailler un peu sur son vélo, de se faire aider ou pas par un des bénévoles, un ou une des bénévoles. Et là, on est sur le créneau en non-mixité choisie, qui a lieu le mardi soir en général, enfin tout le temps, et qui vise à un peu faire en sorte que les minorités de genre soient plus à l'aise à travailler sur leur vélo sans forcément s'inquiéter de ne pas se sentir légitime ou de sentir qu'on n'en sait pas assez. Je tiens régulièrement le créneau, il y a toujours du monde qui passe, donc c'est sympa.
Et toi, t'as constaté qu'il peut y avoir du sexisme dans les ateliers d'autoréparation ?
Moi, j'en ai pas constaté. Je pense que ce qui se passe, en fait, c'est que beaucoup de... Enfin, moi, ça m'est arrivé personnellement d'arriver dans un atelier où c'était vraiment que des hommes, enfin que moi j'identifiais comme hommes cis, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a un peu un côté boys club parfois qui peut être un peu intimidant, ou même sans être intimidant, un peu agaçant.
Pour moi, ça fait sens, les ateliers non mixtes, parce que j'ai déjà vécu du sexisme en atelier d'autoréparation. C'est déjà arrivé qu'on me prenne les outils des mains, qu'on fasse à ma place, et qu'en fait je sorte de l'atelier et j'ai pas compris ce que je devais faire ou ce que je devais apprendre. Et donc, un atelier en non-mixité, pour moi, ça permet plus de mixité pour les ateliers de manière générale. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, de minorités de genre qui se rendent aux ateliers non-mixtes parce qu'il y a aussi un environnement de confiance et qui après, du coup, se sentent beaucoup plus confiantes et à l'aise pour aller aux ateliers mixtes.
Ça fait une chouette porte d'entrée.
Oui, c'est pas la suite.
Voilà.
Bah voilà, du coup, c'est fini.
Voilà. Non, c'était juste pour drop très rapidement que la non-mixité, c'est effectivement très important et c'est un non-débat. Par contre, ça me semble important de préciser de quel type de mixité il s'agit quand il y en a. Parce que pour les personnes comme moi qui ressemblent à des hommes sans en être, c'est très vite très compliqué de savoir si on peut venir ou pas.
C'est vrai.
Oui,
oui.
Bisous.
Pour moi, la question de la non-mixité, c'est aussi un non-débat parce que, en fait, c'est pas comme si on allait empêcher des hommes d'aller réparer des choses. C'est juste qu'on va laisser un créneau pour les femmes pour pouvoir réparer ensemble des choses. Et ça peut permettre aussi, justement, de changer les a priori que tu as sur toi. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi avec l'idée que je n'étais pas créative. Ma sœur, elle faisait plein de choses et moi, tout me paraissait moche quand c'était moi qui le faisais. Avec l'âge, j'ai un peu compris que j'idéalisais le processus créatif de manière générale. J'imaginais que les personnes qui faisaient des choses de leurs mains savaient parfaitement quoi faire et comment les faire. Et ce, en une seule fois. Et pendant que ma sœur continuait à dessiner, coudre, tricoter, moi, je ne faisais pas vraiment... Enfin, en fait, je faisais rien. Enfin, non, je faisais pas rien. J'ai essayé quelques trucs. J'ai dessiné sur une tablette. J'ai essayé de faire de la broderie. J'ai même essayé de faire un bullet journal, et ce, pendant des années. Mais on sait ce que c'est. Ouais,
Un bullet journal ?
Un bullet journal, c'est un... Alors, c'est un journal que tu tiens. L'idée, initialement, c'est vraiment... bullet, c'est... en anglais, c'est des petits ronds. L'idée, c'est vraiment juste de s'organiser et de dire, voilà, ma to-do, enfin, ce que je dois faire aujourd'hui, comment je m'organise demain, etc. Mais la magie des réseaux sociaux a fait qu'on rend ça hyper esthétique et il faut bien dessiner, il faut faire des magnifiques cadres, il faut mettre des superbes dessins, des superbes scotchs, etc. Et donc, moi, je trouvais toujours tout moche ce que je faisais par rapport aux autres. Donc, j'ai arrêté le bullet journal. Et c'est il y a un peu plus d'un an que j'ai vraiment accroché à un loisir qui s'appelle l'argile autodurcissante. Le principe, modeler quelque chose, le laisser sécher, le poncer, le peindre, puis profiter. L'idée était géniale. Mais c'était sans compter mon perfectionnisme et mon impression que tout ce que je fais est irrémédiablement insatisfaisant. Cependant, j'ai continué à m'entraîner pour arriver à ces derniers jours. Préparant l'anniversaire de ma sœur, j'ai voulu, après avoir vu un tuto sur Instagram, les fameux tutos sur les réseaux sociaux, j'ai voulu faire une boîte à mouchoirs. Et au début, ça allait. Au début. Il y a donc eu, en train de sécher sur mon meuble en bois bleu, une boîte à mouchoirs fissurée qui m'a coûté 3 paquets d'argile, plus de 4 heures de réalisation, ma bonne humeur et mon espoir en ma créativité. Et tout ça, c'est sans parler du dit meuble en bois bleu qui m'a coûté plus de 10 heures de ponçage après et peinture bleue, plus de 4 heures de ponçage pour enlever la peinture bleue qui jaunissait, plus de 5 heures de peinture noire puis bleue pour finir avec un meuble bleu qui jaunit encore. Vous la sentez l'amertume dans ma voix ? La vérité, c'est que le fait main, c'est extrêmement ingrat. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter ? Non. Est-ce que ça veut dire que je vais essayer de réparer cette pauvre petite boîte à mouchoirs ? Oui. Est-ce que ça veut dire que ma sœur va peut-être se retrouver avec un collier de nouilles pour ses 31 ans ? Oui. Morgane nous disait que le fait main, c'est faire des erreurs, c'est apprendre. Eh bien, ma boîte à mouchoirs fissurée et moi, on est plutôt d'accord.
La mouchoir, je fais la boîte à mouchoirs. Je souffle.
Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais au moins, j'aurais essayé. Je crois que c'est déjà ça. Je crois que c'est ça, le fait main, en fait. Tricotine,
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 tricotine.
Vous êtes toujours sur Radio U 101.fm et vous écoutez Tricotine, une émission qui aujourd'hui vous décortique le fait main. Qu'est-ce que c'est le fait main ? J'ai rencontré la brigade d'intervention vocale, la BIV, au Stal Café à Plounéourménez dans les Monts d'Arrée. Et donc, la BIV, c'est 6 femmes qui viennent de la région nantaise et qui font des percussions avec leur corps, qui utilisent leurs mains, leur voix pour faire de la musique. On a parlé de Rémi Fraisse, on a parlé d'anarchistes, tueurs de présidents, de routes bloquées, de grèves en Martinique ou en Italie, de faim qui tenaille le ventre. Voici la rencontre que j'ai faite avec elles.
Alors la BIV, la Brigade d'Intervention Vocale, c'est un groupe de 6 filles, on est 6 femmes, et c'est surtout de la voix, la polyphonie, en plusieurs langues. On joue aussi des percussions corporelles, et il y a de l'accordéon. Dans la BIV, il y a Magali,
Marie,
Émilie,
Baladine, et il y a également Flore et Carla.
Et ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ?
Ça fait 10 ans, déjà. On écoute pas mal de musique traditionnelle d'un petit peu partout. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais aussi des compositions récentes. Il y a plusieurs thématiques qui sont communes quand même à notre répertoire. C'est les questions de lutte, de femmes, de travail, de chansons qui portent des idées, des valeurs qui nous sont chères.
Et après, on essaye de les arranger, de les interpréter On les interprète de façon assez personnelle et je pense avec pas mal d'émotions.
Sociale et écologie aussi.
J'allais dire que quelque part, comme c'est des chansons qui nous tiennent à cœur, il y a vraiment... Enfin voilà, on y met, en tout cas, on y met aussi tout notre cœur, notre enthousiasme et justement à se dire qu'est-ce qu'on a envie, nous, de placer sur la place publique, de défendre.
En fait, les chansons les plus anciennes, peut-être qu'on peut dire qu'elles sont globalement début 20e. Et puis là, celle qu'on est en train de travailler en ce moment, elle parle des méga-bassines, donc c'est très, 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 très récent. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Tchak Boom, un groupe poitevin qui l'a fait.
Pourquoi vous avez fait le choix de chanter a cappella ?
Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce qu'on vient de différents milieux musicaux et ce qu'on aime surtout mettre en avant, c'est nos différents timbres et grains de voix. Il y en a qui viennent plutôt de la musique trad, d'autres univers. Et ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est des voix de femmes.
En fait, aussi, on a un travail de la voix qui s'inspire beaucoup de du chant traditionnel. Donc, c'est des voix très projetées qui se travaillent en acoustique. Donc, ça peut arriver qu'on soit sonorisé si la salle est un peu trop grande. Mais là, par exemple, ce soir, on joue en acoustique et c'est vraiment là qu'on est le plus dans notre élément et où on a l'impression de pouvoir... déployer la voix comme on... Enfin, voilà, dans le respect de comment on la travaille, de comment on la travaille ensemble aussi. On est dans l'écoute des voix des autres. Et puis en même temps, il y a des passages de prise de parole individuelle aussi. Et après, de plus en plus, maintenant, il y a aussi le rythme, des recherches aussi d'arrangements qui vont être plus contemporains. Et puis je dirais qu'il y a aussi beaucoup le corps en scène. On est très en mouvement sur scène. Donc c'est aussi ce qui se passe entre nous, ce qui vit entre nous. Et donc effectivement, les gens viennent écouter un concert vocal, mais ils ont aussi, ils voient en fait des 6 femmes entre elles entre qui il se passe plein de choses. Et ça fait vraiment partie du spectacle aussi.
Et quand tu dis des arrangements plus contemporains, ça prend quelle forme ? Comment on traduit ça musicalement ?
Moi, je dirais que c'est en fait qu'on travaille vraiment la voix comme un instrument. C'est pas juste la voix qui chante et qui dit un texte qui est accompagné par des instruments. C'est que toutes les autres voix, elles accompagnent une parole. Et donc, peut-être ce qui est plus traditionnel, c'est chanter en polyphonie, là où on peut avoir un accompagnement derrière qui est très rythmique, mais à la voix.
Moi, je peux parler de la chanson La Lega, qui est une chanson italienne. Et comme je suis italienne, ça me touche particulièrement. Une chanson qui parle de femmes qui se réunissent pour combattre les injustices, leur soumission au patriarcat et leur exploitation aussi par rapport au travail. Elle parle de ça, donc de choses dures, de conditions très dures, mais avec la force de femmes qui, par leur rassemblement, par leur union, par leur complicité, décident de lever la tête et de dire ce qu'elles vivent. Et elles n'ont pas peur, ensemble. Et en plus de ça, c'est aussi une chanson qui amène beaucoup de la festivité.
Allora, andiamo in Italia. Va bene?
Al sud.
Sì, al sud, un po' più sud della Bretagna. Allora, le donne, chiamate le mondine, lavoravano nelle risaie, va bene? Il riso. Il padrone con il bastone. Allora le mondine si riuniscono, combattono e cantano. Siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo.
La lega crescerà, e verranno i socialisti, e verranno i socialisti.
je parlerais peut-être des champs de travail. On rapporte l'essence même de l'être humain qui devait faire face à des tâches compliquées et qui, pour l'accompagner, donnait de la voix pour se donner du courage et avancer coûte que coûte, ce qui aujourd'hui ne se fait vraiment plus trop dans notre société.
On part avec les tailleurs de vigne. On est dans le froid, on est dans le vent. On a des kilomètres de lignes de pieds, de sacs de vigne.
Et praconus calana, mesuyenana puda, ai puda, l'amore al filo, è impensata finché facciam veni, lu pintara ma la filo, se pensar che ci nus fa tre scusi, se pensar che ci nus fa tre scusi.
Pour moi, ça me produit beaucoup d'émotions de pouvoir chanter la chanson qu'a écrite Émilie sur les femmes iraniennes aujourd'hui, de se connecter à leur force là-bas, à toutes ces femmes et ces hommes qui se battent pour la liberté.
En 2022, en Iran, a eu lieu le mouvement Femmes, Vie, Liberté, suite au meurtre de Mahsa Amini, la jeune kurde, qui a été tuée pour un foulard mal positionné. Et pour célébrer le courage de ces femmes qui sont descendues dans la rue pour leur liberté, et pour faire résonner leur voix, on va vous chanter une chanson qui a été écrite par Émilie.
Ils ont volé le vent de mes cheveux, des fleurs fanées dans les bras de nos mères. Ils ont dit, viens ma belle, nous allons te voiler, car tes mèches rebelles sont bien trop légères, car tes mèches rebelles, nous allons les dompter.
Alors, c'est très difficile de choisir aussi, mais je vais dire comme ça, Casario. C'est un chant qu'on chante depuis très longtemps, qui est difficile à défendre de par son thème, qui est quand même l'assassinat d'un président de la République. En fait, j'aime beaucoup l'arrangement. J'adore l'arrangement, j'adore les harmonies.
Mi chiamo Sante Geronimo Casario.
Je m'appelle Sante Geronimo Casario.
Ho 19 anni, sono schedato come attivista.
J'ai 19 ans, je suis fiché pour activisme anarchiste.
Ho 20 anni.
J'ai 20 ans.
Rivoltato dalle disuguaglianze sociali.
Révolté par les inégalités sociales.
E con un sentimento di impotenza di fronte alla miseria
et
all'ingiustizia.
Avec un sentiment d'impuissance face à la misère et à l'injustice.
Assassino il presidente della Repubblica francese, Sadi Carnot.
J'assassine le président de la République française, Sadi Carnot.
Muoio guillotinato.
Je meurs guillotiné.
A tu Casario lu, io di là più pio, che vengeance sui mano ne senti io. Un pobre che primo di la pena una mula baiere se tu ne spero.
Je vais parler de Idle No More, qui est un chant qui a été écrit pour parler de la lutte des peuples autochtones au Canada pour la défense de leur terre et de leurs droits. Et ce que j'aime dans ce chant-là, c'est que vraiment, c'est à la fois ça raconte quelque chose de comment se rassembler pour faire avancer les choses, sortir de la passivité. En fait, ça veut dire n'attendons plus, allons-y quoi. Et du coup, il y a un truc où on peut vraiment aller dans la puissance des voix ensemble et quelque chose de super archaïque et rassembleur en fait.
À toi ?
Ma chanson préférée, c'est Impossible. Après, s'il faut parler d'une chanson, I'm Mama, sans doute, qui est une chanson en occitan.
Et je voulais vous parler d'un petit ruisseau qui s'appelle le Tescou. C'est un affluent du Tarn. Au début des années 2000, voire un peu avant, il y avait un beau projet de grande Arestanka grand barrage. Des jeunes gens sont arrivés sur les lieux pour occuper le chantier du futur barrage. En octobre 2014, Rémi Fraisse a reçu une grenade offensive lancée par un gendarme. La grenade est tombée entre sa capuche et son sac à dos. Elle a explosé et Rémi Fraisse est mort.
Et ça me semble important de rendre hommage aux militants.
Donc ça, c'est des chansons que vous allez chanter ce soir?
Oui.
Vous avez réussi à vous mettre d'accord?
Oui.
On est aussi d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec toutes celles qui ont été.
Bah, on est super sympa.
Je n'en doute pas.
On est très belles et super sympa.
Juste quand on disait que c'est des thèmes assez chargés et assez, en partie, pour certains, tristes et tout ça, mais que ce à quoi on se connecte entre nous et au travers de ces chansons, parce que ces chansons, en fait, elles ont déjà une puissance en elles-mêmes, mais c'est vraiment la force du collectif. Et que en soi, là-dedans, nous, on trouve de la joie dans cette force du collectif, qu'il y a des chansons qui racontent des luttes victorieuses, qu'il y en a d'autres qui racontent des moments pas faciles, mais que dans tout ça, il y a des gens qui se sont réunis pour aller vers un avenir meilleur, et que ça, ça donne de l'espoir.
Oui, c'était bien.
C'était une belle fin.
Super conclusion. Ok, merci beaucoup.
Les bonnes choses ont une fin, et notre émission aussi, donc il est temps de nous dire au revoir.
Oh.
Mais on revient le mois prochain.
Oui.
Vous pouvez retrouver Tricotine en podcast sur radio-u.org, et pour les questions, interrogations, suggestions ou manifestations, contactez-nous sur tricotine@proton.me. On vous laisse avec Algal le Barde et sa reprise Doll Star de Smash Mouth, et à bientôt sur le 101.1 FM à Brest.